Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Véronique Descac, secrétaire générale adjointe de la CFDT.
Bonjour Véronique Descac.
Bonjour.
La CFDT, on va le rappeler, a appelé à voter Emmanuel Macron. Et puis deux jours après son élection, eh bien voilà que dans une tribune, vous lui demandez de partager le pouvoir. Qu'est-ce que vous craignez dans la gouvernance Macron ?
Alors d'abord, on n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron pour Emmanuel Macron, on a appelé à faire barrage au Front National. Et il se trouve qu'au deuxième tour, le seul bulletin de vote utile pour faire barrage au Front National, c'était celui d'Emmanuel Macron. Pour autant, on a dit tout de suite que c'était pas un chèque en blanc. Donc ce qu'on craint, c'est deux choses. D'abord, peut-être que le nouveau président, face à la victoire quand même importante qu'il a eue face au Front National et qui est un signe plutôt positif pour le pays, que face à cette victoire, il oublie un petit peu les difficultés du pays réel, l'inquiétude, la fragmentation, le fait que les citoyens et les salariés en particulier ont l'impression d'être dans un pays qui ne réussit pas, que pour les salariés ça se traduit par des reculs sociaux, et qu'ils ont du mal à renouer avec l'optimisme. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a voulu lui dire, c'est que pour remettre le pays sur les rails de l'optimisme, il ne suffit pas de faire des réformes, il faut écouter les gens et il faut faire des réformes dans la concertation et dans le dialogue. C'est un petit peu la ligne de crête sur laquelle il doit se situer d'après nous, à la fois savoir donner du sens à son action, mais en même temps savoir écouter ceux qui représentent les citoyens français.
C'est pourtant ce qu'il a dit tout au long de sa campagne, qu'il allait écouter les organisations, les partenaires, les Français. Pour vous, ça ne coule pas de source, c'est la perspective des ordonnances qui vous fait dire ça ?
Non, ce qui ne coule pas de source, c'est qu'il nous a semblé qu'il avait une vision du dialogue social qui n'était pas complète pour nous. C'est-à-dire qu'il dit le dialogue social, c'est très important dans les entreprises. Il faut donner des marges de manœuvre aux représentants des salariés dans les entreprises pour qu'ils puissent négocier. Ça nous va bien. Mais en même temps, il a l'air de dire que le dialogue social au niveau national interprofessionnel, c'est un peu inutile et que l'État va tout savoir faire. En particulier, c'est le message qu'il envoie quand il dit qu'il veut nationaliser l'assurance chômage. Il a employé ce mot qui est très fort.
C'est aussi le référendum en entreprise qu'il souhaite développer dans sa future loi travail, et ça, vous y voyez un risque de perte d'influence des syndicats ?
On s'est battu pendant toute la période de la loi travail pour qu'il y ait la possibilité d'un référendum à l'initiative des organisations qui avaient signé des accords mais qui n'avaient pas obtenu la majorité pour signer
ces accords. Et pourtant, vous avez fini par l'adopter, vous aussi, cette loi travail, Macron.
Oui, on a fini par l'adopter parce que justement, on a obtenu des choses qu'on y voulait. Et le référendum à l'initiative des représentants des salariés, c'est ça qu'on voulait parce qu'on pensait notamment que ça pouvait améliorer le rapport de force des organisations syndicales. Donc revenir sur cet élément, c'est vrai que ça nous inquiète.
Oui, parce que l'employeur pourra demander leur avis aux salariés, mais sans passer par vous. Donc c'est vraiment une façon de vous écarter.
Alors, je ne sais pas exactement si c'est ça son projet. À ce stade, c'est un peu flou. Ce que j'ai compris à ce stade, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait une négociation, qu'il y ait un accord.
Il faudra au moins 50% des salariés qui soient d'accord pour que les
syndicats... D'abord, il faudrait une négociation avec les organisations syndicales, un accord signé par elles, mais minoritaire, et que seulement en cas d'accord minoritaire, alors l'employeur pourrait demander un référendum. C'est ce que j'ai compris, mais tout ça c'est à vérifier, c'est la démonstration qu'il faut bien qu'il y ait un dialogue approfondi maintenant pour vérifier ce qu'il y avait dans le programme.
Cette future loi, cette future réforme du code du travail qui pourrait donc passer par ordonnance avant l'été, durant cet été, est-ce que vous en ferez cette échéance une cause de un casus belli éventuellement contre un passage un peu en force?
D'abord, à la CFDT on ne fait pas de casus belli avant d'entrer dans les discussions. Ce qui serait pour nous le casus belli, c'est qu'il y ait des ordonnances sans concertation préalable, oui, mais dans la mesure où on a le temps entre maintenant et cet été de faire des groupes de travail, d'approfondir un certain nombre de sujets, le code du travail mais aussi l'assurance chômage, la façon dont fonctionnent les prud'hommes par exemple ou les instances représentatives du personnel. Si on est capable de travailler et de préparer les ordonnances dans la discussion, dans la concertation, après les ordonnances, je dirais que c'est un problème entre le président et sa future majorité.
Et s'il n'y a pas cette concertation, est-ce que vous iriez jusqu'à rejoindre les mouvements de contestation de la CGT ou de Force ouvrière qui ont déjà dit au président élu qu'ils s'opposeraient à cette nouvelle réforme?
La CFDT a toujours été claire là-dessus. S'il n'y a pas de concertation et s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans une loi, on utilise tous les moyens à notre disposition pour contester le texte qui ne nous convient pas. Donc, pourquoi pas des manifestations? Mais à cette heure-ci, c'est quand même un peu tôt pour envisager ça.
Vous êtes toujours dans ce qu'on appelle un syndicat d'accompagnement plus qu'un syndicat contestataire?
Alors, je dirais ni l'un ni l'autre, on est ni d'accompagnement ni contestataire. On a une vision de ce qu'il faut faire pour remettre à la fois de la réussite et de la cohésion sociale dans le pays. Notre vision, c'est transformer en profondeur le modèle économique, ne pas tirer l'économie vers le bas en baissant le coût du travail, etc. Mais plutôt faire de la qualité, améliorer, supprimer, je dirais même, la concurrence sociale entre les différents salariés des pays européens et créer des droits nouveaux qui répondent mieux aux aspirations des salariés d'aujourd'hui face aux risques et aux besoins d'aujourd'hui. Ça, c'est pas de l'accompagnement, c'est un petit peu plutôt de la vision, de la prospective.
Est-ce que, comme l'affirme le Canard enchaîné ce matin, Emmanuel Macron a tenté de rassurer les syndicats avec des rencontres, je lis le Canard enchaîné, Emmanuel Macron a assuré tous les patrons des syndicats qu'il a reçus discrètement au moins une fois avant le premier tour. Est-ce que Emmanuel Macron a tenté de rassurer la CFDT avant le premier tour ?
D'abord, tous les candidats ont reçu les organisations syndicales. On a rencontré M. Larcher pour Fillon, on a rencontré aussi les équipes de Benoît Hamon. Et Emmanuel Macron a rencontré en tout cas Laurent Berger, c'est sûr, mais pas discrètement entre deux portes. C'était tout à fait officiel. Il y a des photos officielles qui circulent. Donc ça, c'est normal. C'est le travail d'un candidat pendant sa campagne.
C'était dans le au moins une fois. Il y a peut-être eu d'autres rencontres, peut-être plus secrètes.
Non, pas du tout.
Remettre l'Europe en marche, c'est aussi ce que vous réclamez dans la tribune que vous adressez à Emmanuel Macron. C'est justement ce que vient de dire le président élu dans une vidéo sur Twitter. Il veut remettre l'Europe en marche. Comment entendez-vous cette première déclaration européenne du président Macron? Élu.
C'est très important pour nous ça, parce qu'on pense qu'une partie des solutions aux problèmes français viennent de la capacité en Europe d'investir massivement. Nous, on pense que pour transformer notre modèle économique, il faut des investissements massifs dans l'innovation. Alors l'innovation, c'est le numérique, mais c'est aussi les biotechnologies, les nanotechnologies. C'est aussi prendre conscience de l'importance que revêt l'allongement de la durée de vie et des nouvelles activités qui peuvent s'organiser autour de ça. Et on sait que ces investissements, ils sont tellement massifs que la France, elle toute seule, peut pas y arriver. Donc il faut le faire dans un cadre européen. Premier volet. Deuxième volet, c'est égaliser les droits sociaux, les rémunérations, la protection sociale des travailleurs dans les différents pays européens, justement pour éviter cette concurrence sur les droits des travailleurs et des salariés en particulier.
Véronique Descagues, donc secrétaire générale adjointe de la CFDT. Merci d'être venue ce matin sur France Inter.
Merci.
Et bonne journée.